Je m'en vais, le consolateur ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Une des principales propriétés de la Sainte Écriture est de consoler, de ranimer par l'espérance les cœurs affligés. Tout ce qui a été écrit, nous dit saint Paul, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que nous donnent les Écritures, nous conservions l'espérance. Cette puissance de consoler, le prophète Isaïe se glorifiait de l'avoir reçue quand il disait « Le Seigneur m'a donné une langue éloquente, afin que je puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. » Job également l'a possédé, puisque ses amis lui dirent « Vos paroles ont affermi ceux qui étaient ébranlés, vous avez fortifié les genoux tremblants. » Toutefois, nul n'a pu remplir ce ministère dans toute sa plénitude comme notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui affirme avoir été envoyé par son Père pour consoler tous les affligés, avoir ceux de Sion qui sont dans les larmes, leur donner une couronne au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu des larmes, le manteau de gloire au lieu de l'esprit de tristesse. C'est ce qu'a prophétisé de lui le prophète Isaïe. De fait, toutes les paroles, tous les actes, tous les travaux et les douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection sont bien propres à consoler les pauvres, les affligés et tous ceux qui peinent sous le poids du malheur. Car peut-on contempler avec l'œil de la foi et avec une vraie piété, notre Seigneur cloué sur la croix, le corps meurtri, ruisselant de sang, et ne pas trouver, à cette vue, un vrai soulagement à ses propres peines? Il a souffert plus que nous. Il a porté tous nos crimes, toutes nos peines. Dans l'évangile de ce jour, nous assistons à une scène bien touchante entre notre Seigneur et ses disciples. Notre Seigneur y met tout en œuvre pour les consoler de la séparation prochaine. La scène se passe peu de temps avant qu'il ne soit livré à ses bourreaux, qu'il ne soit saisi par ses ennemis. Les apôtres vont l'abandonner et il le sait. Et pourtant, ils ne cherchent qu'à adoucir leur tristesse et à rendre cette séparation moins dure. La principale consolation qu'il va leur donner est la promesse de l'Esprit-Saint. Notre Seigneur ne peut donner de plus grande consolation à ses apôtres. La preuve est dans le nom même qu'il donne au Saint-Esprit, ce nom de Paraclet qui signifie « consolateur ». Le Paraclet, c'est le consolateur par excellence. Et de tous les attributs du Saint-Esprit, celui de consoler est pour les hommes le plus salutaire et le plus aimable. Si notre Seigneur lui donne ce nom, c'est qu'il considère comme essentiel sa mission de consoler. Mais pourquoi cela? Parce que si un grand nombre d'hommes vivent loin de Dieu, se détournent de la vie chrétienne, de la vie de foi, c'est qu'ils refusent la plupart du temps de se soumettre aux exigences morales de notre sainte religion. Combien d'âmes qui avaient acquis les biens de l'Église à la Révolution et qui n'ont pu revenir à Dieu, attachées qu'elles étaient à ces biens mal acquis et qu'elles devaient rendre et qu'elles n'ont pas voulu rendre? Combien aujourd'hui d'âmes qui gisent à l'ombre de la mort, captives qu'elles sont de l'impureté sous toutes ses formes? Comme l'a dit Notre-Dame à la petite Jacinthe de Fatima, le péché de la chair est celui qui conduit le plus d'âmes en enfer. Les âmes tombent en enfer comme par tourbillon, a dit aussi sœur Lucie. Car le vice apparaît toujours sous des formes agréables et attrayantes, alors qu'une vie vertueuse n'a pour les âmes mondaines qu'ennui et amertume. La vie chrétienne, avec ses renoncements, ses exigences, est bien sûr plus belle et plus noble. Tous en conviennent. Et si ce n'est de bouche, c'est du moins le témoignage que le rend le fond de leur conscience, aussi abîmée soit-elle en ces temps d'apostasie universelle. Mais aux yeux des impies, une seule chose rend la vertu inférieure au vice et les empêche de la préférer. C'est la volupté et le plaisir qu'ils en retirent, plaisir sensible dont l'âme humaine est si avide depuis le péché originel. Aussi, afin que les justes ne soient pas détournés du chemin de la vertu et de la justice, le Saint-Esprit les comble de délices spirituelles et les console. Ici, il faut noter que les mouvements de Dieu sont généralement différents des mouvements de la chair et du démon. Le démon tentateur mettra sous nos yeux le plaisir que nous apportera le péché. Mais une fois ce plaisir goûté, le péché ne produit dans l'âme que le remords de la conscience, la privation de toute paix intérieure. Ne reste pour l'âme captive du péché, si elle ne revient à Dieu par la pénitence, bien sûr, que la tristesse, la recherche plus ou moins effrénée de ces fausses consolations qu'apporte le péché, afin d'oublier qu'il y a un Dieu, d'oublier qu'il y a un ciel, d'oublier qu'on a une âme faite pour aimer Dieu et que seul Dieu peut rendre heureuse. La vertu, dans un sens totalement contraire, apparaît d'ordinaire comme quelque chose d'ardu, de pénible à la nature, qui coûte. Il y a un effort à faire. Mais si nous suivons le mouvement de la grâce qui nous pousse à faire cet effort, alors quelle joie profonde, quelle paix intérieure est alors ressentie. Ce sont là les consolations du Saint-Esprit, et il n'y en a pas de plus grande, cette paix de l'âme. L'âme, dit Saint Grégoire, a besoin de jouissance, et elle ne peut se vautrer que dans des plaisirs ignobles si elle n'en a pas de plus élevé. Aussi la divine providence, ajoute-t-il, qui ne manque à personne dans l'ordre du salut, réjouit et console si bien les âmes des justes par des consolations célestes et spirituelles qu'ils rejettent loin d'eux, les tenant pour rien tous les plaisirs de la chair et du monde. Il est aussi facile de conclure à la supériorité des joies du ciel en lisant la vie des saints. Une femme dit un jour au curé d'Ars, à la vue de ses pénitences, « Mais s'il n'y a rien après la mort, vous serez bien attrapé. » Il répondit, « Si vous saviez, madame, comme je suis déjà si heureux, je suis déjà si heureux en ce monde, dans mes pénitences, en portant ma croix, je suis déjà si heureux. » Et tous les saints ont expérimenté cette joie profonde de servir Dieu dans l'humilité en portant sa croix. Mais notre Seigneur, dans l'évangile de ce jour, donne d'autres raisons pour lesquelles le Saint-Esprit sera source de consolation. Non seulement son nom même consolera les âmes qui vivent de la grâce, mais encore, l'action qu'il aura dans le monde sera pour elle source de consolation. Quand il sera venu, il convaincra le monde sur le péché, sur le jugement et sur la justice. Il convaincra le monde. Convaincre ici, c'est réprimander, c'est corriger, c'est accuser. En établissant la réalité d'un crime, le Saint-Esprit, en effet, par ses apôtres, convaincra le monde de crime sur trois chefs d'accusation, le péché, le jugement et la justice. Cette condamnation du monde sera une consolation pour les justes, eux que le monde aura critiqués, tournés en ridicule, persécutés parfois jusqu'au martyre. Ce monde qui aura condamné la Sainte Église, qui aura souillé le sacerdoce de ses sarcasmes, qui aura brûlé nos églises, sera à son tour, et il est déjà condamné par le Saint-Esprit. Condamnation sur le péché d'abord, mais non pas sur n'importe quel péché. Notre Seigneur précise la condamnation parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Comment le Saint-Esprit convaincra-t-il le monde de ce péché? Par les miracles des apôtres et des saints, ses œuvres au-dessus de toute force humaine, inexplicables par la raison naturelle. Aussi, quiconque restera incrédule n'aura aucune excuse pour justifier son incrédulité. Notre Seigneur a dit en effet à ses apôtres, « Celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais et en fera encore de plus grandes. » C'est ainsi que saint Pierre guérissait les malades par l'ombre seule de son corps, ce que nous ne lisons pas de notre Seigneur Jésus-Christ. De grands saints ont sans cesse brillé au cours de l'histoire de l'Église par le don des miracles. Saint Vincent Ferrier, saint Raymond de Penafort, le dernier en date est le Padre Pio. Aujourd'hui, siècle d'apostasie, le bon Dieu ne juge pas nécessaire de nous envoyer de tels saints. Châtiment sans doute pour l'infidélité de notre génération. Mais il reste, et il restera toujours dans la Sainte Église, ce miracle permanent de la vie des fidèles selon la grâce de Dieu au milieu d'un monde corrompu. Et ce miracle, avec le temps qui passe, devrait être de plus en plus éclatant à mesure que le monde devient de plus en plus corrompu. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher le bon Dieu et se laisser contaminer par le monde et son esprit. Deuxième condamnation. Le Saint-Esprit convaincra le monde sur le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le démon, avant la venue de notre Seigneur, était honoré presque partout sur la terre. Il y avait des temples aux faux dieux partout. Un culte rendu à Satan sur toute la terre, excepté en Judée, et dans le cœur de quelques âmes fidèles. Par sa mort, notre Sauveur l'a dépouillé de son royaume, l'a relégué au fin fond des enfers. Saint Jean décrit cette victoire dans son Apocalypse. « Je vis un ange qui descendit du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il prit le dragon, l'ancien serpent qui est le diable et Satan, et l'enchaîna, et l'ayant jeté dans l'abîme, il l'y enferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. » Cet ange, c'est notre Seigneur, que Malachie appelle l'ange de l'Alliance, c'est-à-dire l'envoyé qui devait apporter un Nouveau Testament bien différent de l'Ancien. Voilà comment le Seigneur a jugé le prince de ce monde, en l'expulsant de l'Empire qu'il occupait par la violence et par la fraude, et en nous donnant tout pouvoir de le fouler aux pieds. Si nous sommes unis, bien sûr, à lui par la grâce, et que nous accomplissons les œuvres de la grâce, les œuvres de sainteté. Et c'est à bon droit que le Saint-Esprit accusera le monde, c'est-à-dire les pécheurs, sur le jugement, parce qu'ayant la possibilité de s'affranchir de la tyrannie du démon par les mérites et la passion de Jésus-Christ, ils n'ont pas su ni voulu en profiter. Ils ont préféré rester ou redevenir les esclaves du diable. Quelle indignité! de dédaigner cette liberté achetée si chère par notre Seigneur, au prix de tout son sang, et de préférer servir le diable en échange de quelques plaisirs sensibles qui passeront comme passe toute chose ici-bas. Tout passe. Enfin, notre Seigneur nous avertit que le Saint-Esprit convaincra le monde sur la justice. Ce n'est pas seulement sur le jugement, c'est encore sur la justice introduite dans le monde par le Christ et négligée par les méchants que portera l'accusation du Saint-Esprit. Il leur reprochera d'avoir repoussé un si grand bien. Par justice, il faut entendre deux choses. Ce mot désigne dans les Écritures soit la soumission aux préceptes divins, et dans ce cas, quiconque les observe avec rigueur est vraiment juste, soit il désigne la grâce divine qui nous rend vraiment justes et agréables aux yeux de Dieu. C'est par elle que nous pouvons garder les commandements de Dieu. Or, ces deux justices ont été apportées au monde par notre Seigneur Jésus-Christ. Il a rendu facile la première en supprimant les fardeaux de la loi mosaïque, de la loi juive. Ensuite, il a donné la grâce pour nous rendre capables d'observer les commandements. Le Saint-Esprit accusera donc les méchants d'avoir répudié cette glorieuse justice du Nouveau Testament, malgré tant d'adoucissements et de facilités. Et que pourront répondre les méchants aux accusations du Saint-Esprit ? Rien du tout. Quand la lumière se fera, à leur mort, sur leur vie, il sera trop tard. Ils ne pourront que répéter ces paroles que le prophète Jérémie met dans la bouche des réprouvés. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Ils auront perdu pour une volupté honteuse, pour un gain sordide, la gloire immense que Dieu leur destinait et dont l'acquisition était si facile. Et c'est par leur seule faute qu'ils se précipiteront dans les flammes éternelles pour toujours. Concluons. Voulons-nous goûter les consolations du Saint-Esprit ? Échapper à ces condamnations du Saint-Esprit. Rien de plus facile si nous avons un cœur humble, si nous prions pour recevoir la grâce de Dieu. Prions donc le Saint-Esprit qu'il nous soutienne dans nos combats, qu'il adoucisse nos luttes, qu'il nous aide par ses consolations à porter nos croix, nos souffrances et nos peines. Surtout, prions-le qu'il nous aide à nous dégager, à nous éloigner des tentations de ce monde de plus en plus perdu. Que ce monde ne nous entraîne pas dans sa chute, elle est irrémédiable. Cecidit illa civitas mania. Elle est tombée Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.